Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 4 août 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à 114 260 dollars à l'équilibre sur cette journée. Donc pour reprendre en retour d'un week-end qui a été plutôt dans le rouge, on était à moins 4 sur la semaine, moins 10 pour Ether, toujours en hebdo. Et on a des rebonds malgré tout en journalier qui se font sur l'ordre de plus 5, plus 6% maximum. On a plus 11 également pour Ethena, mais qui avait reculé de moins 13. Donc voilà, on a des altcoins qui pour l'instant continuent de faire un peu le yo-yo. Mais on n'a pas de grande tendance qui se dégage de tout ça, si ce n'est que bah pour l'instant, on n'a pas véritablement de prise de risque qui vient s'ajouter à tout ça. Sur le 4 heures, on avait cassé ce petit canal à la baisse, on est venu autour de 112 000, donc on était sur le support. C'est plutôt une bonne nouvelle, le gros support ici qui a été retesté. On va voir si ça va tenir, on va voir si on va réintégrer, si c'était un fake out ou si on va se faire repousser justement par cette zone délimitée entre 115 et quasiment 116 000. Ça a permis de purger pas mal de leviers et on a le Crypto Fear and Greed qui oscille entre le neutre et la légère euphorie. Donc pour l'instant, statu quo, je pense, pour ce mois d'août. Le crypto total, 3670 milliards, il est venu toucher le premier Fibo 0236 à 3560 milliards précisément. Ça fait toujours donc 3 points de contact au niveau de la petite trend RSI qui a été repoussée dès lors qu'on s'est approché des 70 de RSI, donc le surachat en hebdomadaire toujours. On pourrait revenir même un tout petit peu plus bas ici autour du 0,38,2 si correction un peu plus marquée, 3320 milliards et on a la moyenne mobile 20 qui est en train d'arriver à 3200 milliards et la moyenne mobile 50 qui bientôt jouxtera un support assez intéressant également autour de 3000 milliards tout rond. On part aujourd'hui pour une émission un peu spéciale et basée sur les travaux que j'ai pu observer sur les dernières vidéos, notamment de Xavier Delmas, donc qui anciennement opérait pour Zone Bourse et maintenant fait des vidéos sur sa propre chaîne. Je ne peux que vous inviter à aller les consulter. C'est vraiment banger sur banger, comme disent les jeunes. Et on a véritablement, là, pour le coup, on en a pour son argent, bien que ça soit gratuit pour le coup. Et donc, ça m'a inspiré cette revue autour d'un portefeuille potentiellement parfait et surtout d'aller challenger un peu, puisque maintenant, on a des intelligences artificielles très poussées, ChatGPT. Alors, j'ai eu des résultats qui étaient sensiblement identiques, mis à part des fois des pourcentages qui change un tout petit peu entre ChatGPT 4O et 3O au niveau de la réflexion. Le 3O est censé être un peu plus poussé pour tout ce qui est notamment calcul et raisonnement, peut-être mathématiques, etc. On va dire le côté un peu plus scientifique. Le 4O est un meilleur des deux mondes pour le côté vivacité, rapidité d'exécution, mais parfois il va un petit peu moins profondément. Toujours est-il, il m'a proposé de par lui-même tout simplement de travailler autour à la fois du MSCI World qui sert de benchmark, du S&P 500, du MSCI USA IT, donc tout ce qui est, on pourrait l'assimiler tout simplement à du Nasdaq, mais c'est quand même une pondération qui est un tout petit peu plus différente que le Nasdaq en tant que tel. Nvidia, qui a été un benchmark incroyable sur les 5 dernières années, et Bitcoin, enfin, en ajustant le rendement par rapport à la volatilité entre 2020 et 2025. Donc ça, c'était les travaux primaires, mais là, le résumé que vous avez sur ce tweet qui a que quelques captures, c'est un résumé d'environ, je crois que j'avais pris en capture d'écran, 150 à 200 screens qui ont été donc challengés au fur et à mesure via ChatGPT et j'y ai passé la moitié du week-end. Donc là, vous avez un gros résumé qui, bien entendu, est un résumé qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant, c'est pas un conseil en investissement, on passe sur de l'IA. Donc forcément, il y a des choses en termes de profondeur et de psychologie humaine qui doivent lui échapper, mais on se base vraiment sur de l'historique, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et je vais essayer de vous donner donc les clés pour vous vous dépatouiller de votre côté sur comment ajuster au mieux tout simplement votre patrimoine et les allocations qui pourraient faire la différence justement sur les 10, 20, 30 ans qui viennent, tout en ayant bien en tête que voilà, on prend le passé ici pour référentiel bien entendu, mais certainement que des choses bien différentes se passeront dans les 10, 20, 30 ans qui arrivent. Donc le deuxième point intéressant, c'est qu'il m'a proposé de lui même une frontière efficiente à 5 ans avec un rendement réel. Donc systématiquement, je lui ai demandé d'ajuster tout ça à l'inflation puisque on prend en considération, si on prend la moyenne mondiale, qu'on aura une inflation à 2 points, 2 points et demi, maximum 3 points pour les prochaines années. Donc on va dire une médiane autour de 2,5. Ce qui fait que quand on vous dit que la bourse traditionnelle fait un rendement à peu près de 8% annualisé, la plupart du temps, ça n'est pas en prenant en considération l'inflation, ce qui nous fait descendre plutôt autour de 5,5, maximum 6% si on n'a que 2% d'inflation. Donc on va se baser sur ces travaux, l'immense majorité du temps, sur un rendement estimé et ajusté à l'inflation qui serait autour de 5,5 à maximum 6%. On peut constater très rapidement que dès lors qu'on introduit le ratio de Sharpe, c'est-à-dire l'indice qui permet de mesurer le rendement par rapport à la volatilité, donc c'est là où je commence probablement à parler un peu chinois pour certains d'entre vous, ça va permettre tout simplement de se dire « Ok, quand on a un actif comme Bitcoin, par exemple, qui a beaucoup de volatilité et beaucoup de rendement, ben on a un ratio de Sharpe qui potentiellement reste intéressant aujourd'hui, quand bien même on a de la volatilité et ça reste dangereux pour un portefeuille d'en avoir trop, mais on va voir ça dans un instant. Et donc, c'est un ratio qui va vous permettre tout simplement de mesurer quelle va être l'efficience pure et dure entre le risque que vous prenez d'un côté, la volatilité, c'est-à-dire, par exemple, voilà, le S&P 500, on a vu que récemment, il pouvait descendre de 20% lorsqu'il y avait un crash, et derrière, il est remonté d'une trentaine de pourcents. Donc, il a eu un écart de volatilité, moins 20%, plus 30%, vous faites une moyenne et vous avez votre écart type de volatilité. Le truc, c'est que les actions sont considérées comme un actif déjà à risque, avec leur propre volatilité, et bien que depuis 5 ans, on a une volatilité qui tend à s'exacerber, chose qui peut être également prise en considération pour les 5 ans qui viennent, 2025 à 2030, eh bien certainement qu'on aura moins de volatilité pour les marchés. En tout cas, ça ne serait pas déconnant de penser comme ça au vu de l'accélération qu'on a eue depuis 5 ans. Après, ça peut tout aussi bien continuer sur cette trajectoire, mais il y a forcément un moment où ça s'essoufflera un peu, et notamment le jour où la technologie, l'attrait autour de l'IA, commencera à s'estomper un petit peu. Donc là, on a une frontière qui nous démontre que bah, effectivement, quand on a juste au risque, on a forcément le MSCI World qui est le moins risqué en termes de volatilité par rapport au ratio de Sharpe, vient ensuite le S&P 500. On a le Bitcoin qui, malgré tout, n'a pas un ratio qui est si horrible que ça, mais il va falloir le pondérer justement dans un portefeuille. Vous avez Nvidia et le MSCI USA IT, on va dire qui est à l'équilibre sur sa propre ligne de ratio de Sharpe autour de 0,8, mais en rendement réel, on est à 22,5, tandis que la volatilité pour l'un est autour de 20 points, tandis que pour l'autre est autour de 60. Donc qui dit plus de volatilité dit certes potentiellement plus de gains, mais également bah, la volatilité, vous l'avez vu, quand elle part à la hausse, elle peut tout aussi bien redescendre net. Également, on a le portefeuille max Sharpe, c'est-à-dire on s'approche du 1, et à savoir que sur ce ratio de Sharpe, plus vous êtes bas, c'est-à-dire proche du 0, plus votre rendement ajusté à la volatilité est catastrophique, et en passant au-dessus de 1, vous commencez à avoir quelque chose de sympa. À 2, c'est très sympa, et à 3, vous êtes voilà, complètement clean, très certainement quasiment que sur des obligations et des trucs comme ça, des bons trucs de pépère. Donc sur ce ratio pur et dur, si on n'avait pas la frontière efficiente, eh bien vous avez effectivement un ratio qui, au plus, vous êtes bas sur le ratio de Sharpe, et moins ça devient intéressant par rapport à votre ratio de volatilité. Vous avez la frontière à 10 ans avec un stress test du côté de Bitcoin qui aurait les bear markets tels qu'il les a connus jusqu'à présent, avec du moins 50%. Donc là aussi, bon, c'est une projection que je lui ai demandé de faire. On voit que, bah, comme d'habitude, on a des écarts par la suite qui deviennent beaucoup, beaucoup plus importants. Et notamment, si on prend un stress test donc sur Bitcoin avec une volatilité qui grimpe au-delà de 70, on est autour de 75%. Et on voit que ça peut avoir un impact sur la performance assez colossal. Mais je vais y venir dans un instant et ça va être le point finalement de tout ce travail qui a été effectué au cours du week-end. C'est de bien mesurer systématiquement quel va être l'impact de la volatilité négative sur votre portefeuille. Et vous allez voir dans un instant que parfois, avoir un petit peu moins au début, quitte à préserver le capital pour permettre d'avoir les intérêts composés, ça peut vous permettre d'avoir une sacrée différence à l'arrivée, de ne pas se prendre les fameux moins 50 à moins 90% qu'on a tendance à se prendre justement en étant all-in sur le marché des crypto-monnaies. Enfin, une frontière efficiente encore plus intéressante avec un Bitcoin limité à 20%, et c'est là où on voit qu'on commence à re-rentrer dans les clous, et donc c'est tout le sujet et l'enjeu pour la suite. On a quand même malgré tout un ratio de Sharpe qui est dégradé à partir de 20%, et c'est là où, en le challengeant un peu plus, donc pour lui demander quelle serait la pondération idéale dans une allocation générale pour un patrimoine de Bitcoin, il en est venu à la conclusion que 10% serait pour lui l'idéal, entre 5 et 10%, puisque de nouveau, en ajustant le risque par rapport au rendement, eh bien, à partir de 20%, on le voit, on a un rendement attendu qui grimpe que de 2 points, par exemple, alors que la volatilité grimpe de 5. De 30 à 40 points, on a un rendement attendu de nouveau qui est de moins de l'ordre de 2%, donc on va dire 1,8, alors que la volatilité passe de 25 à, on va dire, bon, il n'y a pas la mesure intermédiaire, 32-33%. Donc ça reste énorme. Et à partir de 40 à 50, pareil, on récupère même pas 2 points de rendement attendu et on passe de 33% de volatilité à 40%. Ce qui veut dire, en traduction humaine par rapport à ce qu'on pourrait attendre vis-à-vis de tout ça, qu'à partir du moment où on a une pondération supérieure à 20% en Bitcoin, voire même 10% pour les plus prudents d'entre vous, ça risque de détruire, si Bitcoin fait une contre-performance, que ça soit court terme ou potentiellement plus tard long terme, puisqu'on ne sait pas si le Bitcoin va continuer de progresser autant au travers du temps. Et par contre, là où ça peut être intéressant, effectivement, c'est une personne qui m'a fait remonter ça dans les commentaires, on peut tout à fait aussi se dire, en termes d'allocation et de pondération dans le portefeuille, que Bitcoin pourra trouver plus de place au-delà de 10 et 20% lorsqu'il sera plus capitalisé et donc il aura moins de volatilité, qui tend, je le rappelle, à se casser au travers du temps. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer depuis une bonne quinzaine d'années. Ça sera peut-être pas vrai demain, pas toujours vrai, mais pour l'instant, ça l'est et je suppose que la trajectoire continuera ainsi. Donc là, je parle en l'état des choses, on va dire, pour les 5 à 10 ans qui viennent. En effet, on va dire, allez, 2025 à 2030, dans un premier temps, faisons un pas après l'autre, que 10% dans un portefeuille, ça a un impact qui est intéressant en termes de rendement, en termes de volatilité, sans avoir la contrebalance de l'impact négatif important. À partir de 20%, et jusqu'à 20%, ça peut s'entendre, ça commence à se dégrader et on voit que la courbe accélère relativement vite pour malheureusement avoir une contre-performance si le Bitcoin venait à faire moins 50, moins 60, etc., qui viendrait impacter très largement votre patrimoine pour du long terme. Comme il l'a résumé ici, 10% en Bitcoin, bon compromis, une moyenne de plus 38% vs le portefeuille optimisé à 7,8% en Bitcoin, tout en gardant un risque maîtrisé avec un P5. Je vais y venir dans un instant aussi à quoi correspondent tous ces chiffres un peu avec des P, etc. On va partir pour des simulations de Monte Carlo autour de 700 000 euros, tout en gardant un risque maîtrisé puisqu'on a un P5 qui est autour supérieur de 700 000 euros. Donc on est ici sur 30 ans pour un investissement primaire de 100 000 euros avec donc une multiplication qui serait de l'ordre de x7. Donc autour de ce portefeuille, je vais y venir dans un instant au niveau de l'allocation totale. 30 à 50% en Bitcoin, explosion du rendement moyen mais risque extrême avec un P5 très bas et une forte dispersion, possibilité de perte sévère, donc pas de grande surprise de ce côté-là. Les 10% de Bitcoin maximisent le ratio de Sharpe 0,68. Mais vous voyez que dans tous les cas, en introduisant du Bitcoin dans un portefeuille, on est largement en dessous du 1 qui devrait faire office de référence. Donc là aussi, après, faut prendre en considération que oui, ça reste un actif volatile. L'efficacité rendement risque est optimale à ce niveau. Au-delà de 20%, volatilité augmente beaucoup plus vite que le rendement et le Sharpe ratio se dégrade nettement. 0% en Bitcoin est plus stable mais moins performant, donc ça vaut dans tous les cas le coup, selon votre appétit au risque pour les prochaines années, en effet, selon l'IA, de se positionner à minima entre 5 et 10% en Bitcoin et au maximum autour de 20%, zone à partir de laquelle vous allez sérieusement dégrader votre performance. Si vous avez déjà un patrimoine qui est assis et acquis avec différents placements, rien ne sert en l'état des choses d'aller chercher voilà, au-delà de 20%. Je lui ai demandé de prendre en considération donc un potentiel choc de moins 50% en 2026 et pour lui, le portefeuille est bien diversifié avec de l'or, les États-Unis, emerging markets, on va voir ça aussi dans un instant. Le Bitcoin est limité à 10%, bénéficie d'un rebalancing annuel, c'est-à-dire, admettons que Bitcoin finisse un jour à 200 000 $, vous allez avoir une proportion de Bitcoin qui va dépasser les 10% et donc vous allez devoir allouer de nouveau une portion de ce que vous aviez en Bitcoin sur la répartition globale du reste du portefeuille. De même, en cas de chute, les nouveaux achats reconstitueront la position à bas prix et qui permettra de capter la reprise. Ça, c'est pareil, j'ai pas inclus le fait que vous rajoutiez de l'argent au travers du temps. On va voir dans un instant avec notamment Portfolio Visualizer qu'on peut faire pas mal de choses autour de ça. Mais pour l'instant, j'étais resté donc sur un scénario tout à fait simple dans lequel vous investissiez 100 000 euros, que ça soit en une fois ou en DCA et le résultat qui s'en suivait. Donc pour lui, le poids des allocations vis-à-vis d'un portefeuille tout à fait, on va dire, robuste par rapport à ce qui lui a été demandé, ça serait à aujourd'hui 64,4% en actions américaines. Vous pouvez également traduire ça par un world, tout simplement. Si vous enlevez l'Europe et les marchés émergents, vous pouvez avoir une seule ligne au lieu de trois, ce qui ferait basiquement autour de 65 à 70% uniquement sur le monde, 10% en bitcoin et 23% sur l'or. Il remarque également que l'Europe est très peu pondérée car elle apporte peu de diversification. On est à 0,2% pour les actions européennes et la corrélation étant des plus élevées, le rendement, lui, est attendu et beaucoup plus faible. L'or et les émergents sont inclus pour améliorer la résilience et réduire cette corrélation globale. Donc, comme je le disais à l'instant, si vous voulez simplifier, vous pouvez partir du côté du MSCI World. Le mode d'entretien avec le rebalancing annuel réduit de risque en termes d'avantages et donc si le Bitcoin passe de 10 à 20% après une forte hausse, ça permet donc de redistribuer les gains. Ajustement proposé, puisque je lui ai quand même fait remarquer que le gold avait augmenté 2x2 ces dernières années, et donc on réduit la poche du gold de 23 à 15%. Les 8% donc qui viennent d'être réduits peuvent être redirigés vers le S&P 500 en croissance, ou bien renforcés sur le Bitcoin, sur lequel on viendrait passer de 10% à 18%, ou marché émergent qui passerait de 2% à 10% selon la tolérance au risque. Donc j'ai fait le choix de le laisser pondérer ça plutôt sur les États-Unis, ce qui fait que en définitive on a 72% sur les US, 0,2% sur l'Europe, Bitcoin 10%, le gold 15% et les marchés émergents autour de 3%. La finalité à tous ces calculs et ce blabla depuis tout à l'heure sur 30 ans avec un rebalancing annuel et un taux réel ajusté à l'inflation, avec un gold autour de 15% et un rendement ajusté à 1% pour ce dernier, l'investissement immédiat permettrait de faire autour de 100 000 euros une moyenne à 30 ans de 3,56 millions d'euros. Une médiane, là aussi, on est plutôt sur la projection de Monte Carlo, de 2,6 millions d'euros. Un intervalle P5-P95, alors c'est là où je vais devoir vous expliquer dans un instant à quoi correspond cet intervalle et notamment comment ça fonctionne sur Monte Carlo. En gros, vous pouvez prendre en considération que le P5, c'est les scénarios les plus pessimistes. On va jeter le dé un millier de fois, 5000 fois, 10000 fois, 1 million de fois, d'un point de vue des scénarios qui pourraient se dérouler. Donc c'est des calculs qui se font très vite avec l'IA, c'est très intéressant. Et le nombre de fois où le D va nous donner un scénario le plus pessimiste possible, c'est-à-dire en dessous de 5 itérations par exemple, ou de 5% de ces itérations, on parle de percentile, eh bien vous avez 739 000 euros dans le pire des cas, c'est-à-dire sur 30 ans, si vous investissez sur le portefeuille qu'on vient de citer, la projection la pire serait d'avoir un retour sur investissement d'à peu près x7 ajusté à l'inflation. Le P95, comme vous l'aurez compris, c'est-à-dire il y a à peine 5 points au-dessus de cette zone qui se réalise, c'est le scénario le plus optimiste, avec un target qui serait au bout de 30 ans autour de 10 millions d'euros, c'est-à-dire que toutes les années se passeraient pour le mieux, que tout irait bien dans le meilleur des mondes, qu'il n'y aurait pas de conflit. Enfin voilà, on est vraiment sur des marchés pour lesquels tout serait aligné pendant une trentaine d'années, chose qui n'arrivera pas. De même, je suppose que pendant 30 ans, on ne va pas avoir, mis à part si un jour quelqu'un a pu sur le bouton nucléaire, les marchés qui n'iront pas bien pendant 30 ans. Donc ça vous permet d'avoir un écart qui n'est même plus une fourchette, on est un râteau interdimensionnel, mais ça vous permet également de voir que la médiane est autour de 2 millions, 2 millions 6 d'ailleurs, pour 100 000 euros investis avec les intérêts composés, etc. Donc vous voyez la force également des intérêts composés sur des timeframes comme ça en dizaines d'années. Le DCA qui se fait battre d'une courte tête, si vous investissiez par exemple 20 000 euros par an pendant 5 ans, vous pouvez l'ajuster, bien entendu. J'ai pris un chiffre rond pour faire des comptes ronds. Vous pouvez le faire sur 10 ans, vous pouvez le faire sur 20 ans, sur l'intégralité de votre vie active, sur 30-40 ans. Avec une moyenne à 2,84 millions, une médiane à 2,8 au lieu de 2,6 et un intervalle P5-P95, le plus pessimiste à 577 000 euros, le plus optimiste à 7,7 millions. Donc ça démontre aussi que, oui, aujourd'hui, même pour des personnes qui ont 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros, déjà, de patrimoine et de cash à placer. On voit que d'ici la retraite et malgré l'érosion au travers du temps de cette inflation qui passera par là, vous pouvez vous constituer un sacré capital. L'interprétation finale, eh bien, c'est celle qu'on vient de faire. L'investissement immédiat a une performance attendue plus élevée, le fameux lump sum, quand on peut investir immédiatement. Quand bien même, en effet, si vous arrivez sur un top de marché pendant des années, vous allez ramer, donc faites attention à ça. Le DCA réduit le risque de timing avec des scénarios négatifs moins sévères, mais le rendement moyen est inférieur à peu près 20% de moins sur 30 ans. L'effet de l'or réduit à 15% et son rendement plus bas n'altère pas la robustesse du portefeuille. Donc on reste dans les clous de ce qu'on lui avait demandé. Également, j'attire votre attention sur le fait que volontairement, je n'ai pas introduit du SCPI ou de l'immobilier physique. Ils appellent ça les Américains REITs au niveau de tout ce qui est immobilier. Donc ça peut être introduit dans un patrimoine et dans un portefeuille général. Et ça devrait d'autant plus faire baisser votre risque et augmenter le ratio de Sharpe qui viendra compenser donc cette volatilité beaucoup plus affaiblie du côté de l'immobilier. Donc là, aujourd'hui, on se concentre sur des classes d'actifs qui sont un peu plus boursières, mais je vous invite bien entendu à aller faire une allocation et une répartition qui sera beaucoup plus adaptée à chacun de vos profils. Intéressons-nous un instant maintenant à un portefeuille IA, toujours, qui serait basé sur le All Weather de Ray Dalio. Alors, comme l'ont fait remarquer des personnes également dans les commentaires, oui, le portefeuille normal de Ray Dalio est plutôt entre 40 à 55% en obligations. Et aujourd'hui, on a des taux, notamment 10 ans, qui sont rémunérés autour de 4%. Donc, c'est pour ça qu'on n'a toujours pas de retour de prise de risque, en fait, sur les marchés, et notamment les altcoins du côté des crypto-monnaies, puisqu'on a des rendements qui sont tout à fait respectables par rapport aux obligations. Après, il y a toujours le débat de si un jour, il n'y aura pas un problème vis-à-vis, justement, de la dette américaine. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, aujourd'hui, en se basant sur ces travaux et en ayant pour objectif toujours ajusté au rendement d'inflation et pour un ratio de Sharpe qui serait tout à fait convenable au travers du temps, on partirait sur 25% MSCI World Min Vol. Alors je vais y venir dans un instant parce que ça c'est plutôt intéressant aussi, je connaissais pas du tout et comme quoi on en apprend tous les jours. 25% MSCI World normal, 15% d'obligations, 15% d'actifs anti-inflation et 5% de Bitcoin. Et il nous propose donc un ajustement cyclique vis-à-vis de tout ça. Ça, c'est le plus intéressant à mon sens. Avec, quand on a un inversement de la courbe de taux, qu'on rentre en récession, on augmente de 10% la poche qui passe du MSCI World normal vers le low volatility. Alors, low volatility, il est constitué au travers d'un filtre factoriel d'une sélection des actions les plus stables avec des secteurs défensifs. Donc, on peut avoir une petite sélection qui va être souvent orientée vers le consumers, etc. Et le but au travers de tout ça, quand on bascule un peu plus sur le défensif avec moins de volatilité que le world normal, c'est de nouveau de faire le tampon sur le fait que le world va baisser plus que le min vol dans des périodes où en effet on pense que les marchés risquent de baisser drastiquement. Donc en permettant d'abaisser considérablement le drawdown global du portefeuille au travers de cette répartition, vous augmentez considérablement le ratio de Sharpe qui va dépasser très largement le 1. Le MSCI World normal, lui, vous expose directement au marché développé avec 60% des US, le reste en Europe et en Asie. Ça permet de capter la croissance. Là aussi, avec les tarifs, etc., est-ce qu'on ne va pas avoir moins de croissance dans les prochaines années? Voilà, la question se pose. Ce qui fait que si on a moins de volatilité positive, 1, 2, 3%, mais un risque de crash de moins 10, moins 20, est-ce qu'il ne vaut mieux pas se positionner plutôt sur le min volatility? Voilà, la question se pose. Quand on est en expansion, à contrario de ce qu'on vient de voir en récession, eh bien, on augmente de 10% sur le world normal, plus que 15 en min vol et 35 sur le world normal. Et en cas de stress de marché défensif, de nouveau, on bascule autour de 35% sur le min vol. Des métriques attendues à 20 ans avec un x3 par rapport à ce patrimoine et ce portefeuille. Un max drawdown parce qu'on a 5% en Bitcoin qui serait de moins 28%. Si jamais on enlève le Bitcoin, on n'est plus qu'à moins 18, moins 20. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir sur la volatilité et le drawdown maximum d'avoir du Bitcoin. Une volatilité, un ratio de Sharpe qui est tout à fait normalisé. Donc ça, c'est exactement ce qu'on cherchait. Donc un portefeuille qui à la fin fait à l'identique, voire un petit peu mieux que le MSCI World tout seul, car il encaisse les baisses importantes tout en permettant de préserver le capital et donc de bénéficier plus rapidement de l'effet boule de neige des intérêts composés. Donc je lui ai demandé en fait pourquoi il réfléchissait comme ça à la fin, et il m'a dit que si on prend en considération justement qu'on a eu 5 années de volatilité complètement monstre de 2020 à 2025, et si on prend pour, pas pour acquis mais pour projection, le fait que 2025 à 2030 aura moins de volatilité que ce qu'on l'a eu sur les 5 années précédentes, alors en effet il vaut mieux avoir une pondération un peu amoindrie par rapport à un world qui représente un risque vis-à-vis des actions sur de la volatilité moindre, qui permettra d'ajuster justement au mieux ce risque et d'aller chercher ce rendement qu'on a vu tout à l'heure autour de 5 à 6% annualisé, rendement net d'inflation. Je vous mets à l'instant, quelques instants, l'allocation stratégique qui est proposée au travers des tableaux avec avec notamment le MSCI World Minimum Volatility, le classique, le swap PEA iShares qui est proposé notamment pour les Français, qui est optimisé fiscalement et que vous pouvez détenir sur un PEA donc en France avec une réplication qui est synthétique, les obligations globales d'Amundi 20%, obligations inflation link iShares 15%, or 10% avec du Amundi, matières premières diversifiées, Lyxor Commodity ex agriculture 5%, et juste en dessous la 8e ligne, vous avez les 5% en Bitcoin que vous pouvez aussi là aussi désormais détenir sur votre CTO en France, et notamment je crois que Boursorama propose tous les ETP et les ETN avec ceux d'iShares de BlackRock qui sont à 0,15% jusqu'à la fin d'année 2025 si je dis pas de bêtises, et on sera autour de 0,25% de frais pour les ETF BlackRock à compter de janvier 2026 comme les meilleurs des autres. Donc on est au plus bas aujourd'hui sur ces frais. Les pondérations en cas de phase normale, de phase haussière et de phase de récession, et enfin les ETF et produits conseillés. Là aussi je vous invite à voir du côté de vos différents brokers ces données à titre indicatif, notamment je pense au world normal PEA qui peut tout à fait se prendre directement sur le CW8 d'Amundi, le fameux world. Donc c'est un ticker qui commence par luxe plutôt que FR. Vous trouverez forcément chaussure à votre pied en regardant ce qui vous plaira en fait en termes de lignes. Il n'y aura pas des lignes qui seront beaucoup plus atroces que les autres du moment que vous restez sur des ETF qui sont bien capitalisés et avec justement des émetteurs qui sont historiques et qui sont parmi les plus grandes banques et les fonds de gestion mondiaux. Allez, si vous êtes resté jusque là et que vous n'avez pas encore trop mal à la tête, on passe pour la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Et pareil, je l'ai découvert au travers d'une vidéo de Xavier Delmas de Zone Bourse ce week-end, ce qui a eu le mérite de me mettre un peu au boulot aussi et de faire pas mal de choses pour ne serait-ce que voir un peu ce que pourrait être notre avenir financier à chacun. Et donc, vous avez sur portfoliovisualizer.com la possibilité de voir déjà des portefeuilles de gérants. Donc ça, c'est plutôt cool de voir les performances, de voir quand ça baisse, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez le retrouver notamment sur Portfolio Optimization. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Monte Carlo Simulation pour voir tout simplement ce qui va nous permettre de se projeter au travers du temps. Donc vous cliquez dessus. Là, vous avez des backtests portfolio, factor analysis, asset analysis, portfolio optimisation. Donc ça, ça peut vous aider notamment sur la frontière efficiente, comme on l'a vu tout à l'heure avec ChatGPT, de faire des modèles. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Monte Carlo, et vous allez voir que cette page est remarquable, puisque à partir de là, et quand bien même le site est en anglais, vous allez voir la mine que c'est pour se projeter sur notre avenir financier et sur notre allocation, et surtout de faire des simulations en temps réel pour nous permettre de voir à peu près ce que pourrait être le futur, alors que vous vous en doutez bien, on n'a toujours pas trouvé la boule de cristal. Donc la première ligne, portfolio type, on part sur asset class puisqu'on n'a pas besoin des tickers directement. Initial amount, on va peut-être pas mettre 1 million directement, bien que on peut faire la simulation avec 1 million, mais on va mettre 100 000 puisque tout à l'heure sur Twitter, j'étais parti avec 100 000. Vous pouvez tout simplement mettre que vous avez besoin d'argent pour vivre périodiquement ou que vous allez en rajouter justement périodiquement. Donc là, pour 100 000, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est pas suffisant pour devenir rentier. Donc on va plutôt mettre contribute fixed amount periodically, ce qui nous permet de rajouter de l'argent au travers du temps. On va mettre sur une base mensuelle et on va mettre, pour un couple qui serait un couple de cadres ou un couple de la classe médiane française qui aurait, un revenu à eux deux de 5000 euros par mois et qui peuvent épargner, 500 euros. Voilà, un couple moyen, 5000 euros à eux deux, deux enfants, et ils arrivent à mettre tous les mois 500 euros de côté en plus d'un capital de départ de 100 000 euros. Je pense que c'est quelque chose qu'on a régulièrement vu, notamment du côté des analyses de patrimoine de Mounir sur Fenari. On laisse la case, bien entendu, ajustée à l'inflation, ce qui va nous enlever des points tous les ans, mais qui nous permet d'être le plus réaliste possible. On run sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va laisser 30 ans, puisque je suppose qu'au vu de l'âge moyen de la communauté CM, qui est autour de 30-35 ans, on se projette tous à minima sur une trentaine d'années d'investissement d'ici la retraite. Vous pouvez mettre les taxes, pré-taxes, after-taxes, on ne va pas y toucher pour l'instant. Les retours historiques, où vous avez potentiellement de la statistique ou des paramètres que vous allez pouvoir rentrer vous-même. Donc on reste sur de l'historique, ça ne sert à rien de trop le toucher, mis à part si vous avez vraiment des chiffres en tête et un but tout à fait précis. Useful history, donc on laisse sur yes, ça va permettre de remonter à une bonne centaine d'années pour voir à peu près tous les modèles, et vous allez voir dans un instant que c'est très intéressant, puisqu'en fait, fait, la simulation de Monte Carlo, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme lancer des dés 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois. Et en fonction des résultats qu'on va avoir par rapport à tous les paramètres de ce qui s'est passé dans l'histoire de la finance, ça va vous donner un écart, une échelle de ce qui peut très mal se passer, de ce qui peut très bien se passer. Donc ça, c'est intéressant. Bootstrap model, pareil, single year, on n'y touche pas. Vous avez la possibilité, et ça par contre, c'est très intéressant, d'ajuster votre modèle avec une séquence de stress, c'est-à-dire vous pouvez régler de 1 à 10 ans qui se passerait le plus mal possible au départ de votre investissement. Donc admettons que vous balancez les fameux 100 000 d'un seul coup en lump sum et que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, la bourse rentre dans une traîne baissière, dans une grande dépression, vous pouvez le régler également ici. J'ai fait les simulations ce week-end avec jusqu'à 10 ans, la fameuse décennie perdue. Bien entendu que c'est dramatique si on a 10 ans. Par contre, quand on met juste 1 ou 2 ans, même si c'est les premières années quand on vient d'investir, c'est pas catastrophique puisqu'on part sur un investissement à 30 ans et qu'en plus, vous allez rajouter de l'argent au travers du temps. Également, pour ceux qui feront cette simulation, si vous avez déjà du capital, admettons que voilà, vous avez fait le bullrun de 2020-2021 et vous vous êtes retrouvé avec 1 ou 2 millions, vous allez pouvoir ici mettre que vous souhaitez par exemple withdraw, c'est-à-dire retirer 2000 euros par mois au lieu de contribuer à hauteur de 500 euros, et ça va vous faire la même projection, et c'est encore plus intéressant pour ceux qui se projettent justement sur une situation de rentier. L'inflation modèle avec une inflation historique et petit à petit ça s'ajuste automatiquement, rebalance annuelle, donc on l'a vu tout à l'heure, intervalle ça reste sur défaut, et là donc vous allez devoir faire une répartition en fonction de ce que vous voulez par rapport aux différents marchés à hauteur de 100%. Donc on va laisser les États-Unis comme on l'a vu tout à l'heure autour d'une 60aine de %. Vous pouvez mettre également tout ce qui est monde, etc. Donc US Stock Market, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui dynamise le plus un portefeuille, mais qui également, plus il y en a, plus c'est de la prise de risque. On va le laisser autour de 50%. Ça reste un portefeuille voilà, qui va être un portefeuille orienté volatilité. On va mettre une 20aine de % autour des 10 ans Treasury. On rajoute autour de 5% sur les marchés émergents. Pareil, ça va apporter un petit peu plus de volatilité et de diversification. Le stock européen, on a vu tout à l'heure, fortement corrélé aux États-Unis, donc on va pas en mettre plus de 5%, donc on est autour de 70-80 maintenant, et on va mettre 10% sur le gold et 10% sur tout ce qui est rate, donc le côté immobilier. On aurait pu tout aussi bien d'ailleurs mettre, on l'a vu, même 5% en commodité, d'ailleurs c'est peut-être ce qu'on va faire. Voilà, on va baisser de 5% du côté des rates et mettre 5% en commodité. Et aujourd'hui, c'est à noter, on n'a pas la possibilité de mettre les cryptos, voire le bitcoin, donc c'est une allocation en effet qui va se faire sur une base extrêmement simplifiée et bourse traditionnelle orientée hors crypto. C'est pour ça également que j'ai laissé US Stock Market à 50%, ce qui reste haut en termes d'allocation, ce qui permet d'avoir, on va dire, comme si on avait les fameux 10% de super volatilité du Bitcoin au travers de ces 50 points du côté de l'US Market qui lui-même est pas mal volatile. Et donc maintenant qu'on a réglé tous ces petits paramètres du senior, on fait run simulation. Vous allez avoir le petit calcul qui est fait. Et là, il va vous démontrer déjà au travers d'un camembert votre allocation avec les 50% sur le marché américain, 20% sur le 10 ans, donc au niveau des bonds, 5% marché émergent, 5% Europe, 10% le gold, l'immobilier, les rates 5%, commodité 5%. Donc là, vous avez vos percentiles dont je vous parlais tout à l'heure, 10e percentile, 25e percentile, 50e, 75e, 90e, sachant que le 10e, c'est-à-dire il y a à peine 10% de tout ce qui s'est passé au niveau des simulations qui est tombé en dessous, et ensuite au fur et à mesure qu'on augmente, c'est pareil pour le 90e, vous avez à peine 10 itérations qui se sont passées donc au-dessus, donc on va prendre systématiquement une certaine médiane par rapport à cette simulation de portfolio balancé. Vous le mettez en logarithmique pour y voir un peu plus clair, c'est comme sur n'importe quelle charte de TradingView, et vous ajustez à l'inflation en bas, ce qui va vous diminuer largement la performance, puisque par exemple sur le 10 ans, si on prend la médiane, elle se trouve aujourd'hui à 320 000 dollars approximativement. Quand on passe à l'inflation, eh bien, on n'est plus que à 248 580 dollars. Ceci étant dit, ce qui nous intéresse de voir, donc, c'est si on a une progression positive au travers du temps. Et donc, en partant de 100 000 balles aujourd'hui, eh bien, si ça ne se passait pas bien, la première année notamment, on pourrait baisser avec ce portefeuille, cette répartition, à 85 000. Alors que l'ensemble des autres projections sont déjà plus positives. On a 106 000 sur le 25e percentile. mercantile, 115 000 sur la médiane et jusqu'à 126 000 sur le plus positif. Et on voit qu'au travers du temps, ça n'a de cesse de se développer positivement. À 20 ans, les 100 000 dollars seraient transformés quasiment en 500 000 sur la moyenne. Au plus bas, 268 000, au plus haut, 834 000. Et à 30 ans, avec les intérêts composés, vous êtes proche en moyenne de 900 000 dollars, au plus bas, 428 000 et au plus haut, 1 700 000. Sachant que, ici, on voit qu'on a un portefeuille qui est vachement orienté sur la résilience et qui prend en considération la volatilité. Alors certainement, en ayant les 10% en Bitcoin, on aurait une projection maximale qui serait beaucoup plus haute, mais la projection minimale serait également beaucoup plus basse, due à l'écart type de volatilité et le fameux ratio de Sharpe, etc., dont on a parlé depuis tout à l'heure. Donc là, il faut prendre en considération tout simplement que c'est un portefeuille voilà, résilient. C'est un portefeuille qui, malgré tout, va chercher pour 50% de sa part, donc la moitié de la volatilité sur les actions américaines, qui ont un retour ajusté en termes de rendement qui est assez conséquent, mais vous pouvez l'ajuster, bien entendu, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Et ça a le mérite de démontrer que oui, 100 000 euros investis aujourd'hui, ça peut vous faire x2,5 dans 10 ans, ça peut vous faire x5 dans 20 ans et ça peut vous faire autour de quasiment le million si ça se passe plutôt pas mal, un peu moins si ça se passe moins bien, mais ça peut vous démontrer que oui, d'ici la retraite, vous pouvez vous constituer comme ça un capital. Je vous invite également à consulter le performance summary juste au-dessus donc de la projection de Monte Carlo et de cette simulation avec les percentiles et les maximum drawdown, maximum gain également et un Sharpe donc qui la plupart du temps quand on est au plus bas est désastreux, on est à 0,32 voire 0,45 pour le 25e percentile, le 50e la médiane on arrive à 0,60, le 75e on arrive à 0,74 et ensuite 0,87. Donc vous voyez que même sur ça, c'est difficile sur une simulation d'aller coller proche du 1 et c'est là où ceux qui voudront prendre encore moins de risques aujourd'hui viendront prendre beaucoup plus d'obligations, viendront prendre sur des assurances vie des fonds euros etc. qui rémunèrent quasiment rien mais qui viendront tout juste compenser par rapport à l'inflation, ce qui fait qu'au long terme, vous risquez malheureusement d'être plus ou moins à l'équilibre, soit en légère perte, soit en léger gain, mais ça aura quasiment rien fait. Donc aujourd'hui, ça reste intéressant malgré tout, je suppose, quand on voit les différentes projections, de prendre un petit peu de risque, et ce petit peu de risque, en effet, quand on voit ce que suggère l'IA, c'est 5 à 10% du côté de Bitcoin, c'est un bon pourcentage, 10, 20, 30, 40, 50% selon votre appétence au risque du côté des actions américaines ou un simple MSCI World fera tout à fait le taf. Et à partir du moment où vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, on l'a vu tout à l'heure, il y a le min volatility du côté du MSCI et il y a différents autres ponts qui pourront vous permettre en effet de développer comme ça un patrimoine au long terme, tout en sachant plus ou moins ce vers quoi vous pouvez vous diriger en ayant une fourchette comme ça, des plus négatives à la plus positive et une médiane qui vous permettra de savoir à peu près vers quoi vous vous dirigez. Et c'est quand même assez extraordinaire de se dire que ajuster à l'inflation, puisque si on l'ajuste pas à l'inflation, on est autour de 2 millions sur la médiane, 1 850 000, mais de se dire que même sur 30 ans, en s'étant fait complètement ronger la performance par l'inflation, on est autour de 900 000 dollars pour la retraite, avec 100 000 qui auraient été investis aujourd'hui et les fameux 500 euros qui auraient été injectés en cours de route. Donc ce qui fera toute la différence aujourd'hui, c'est la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir, en amont bien entendu, déployer le capital. Au plus tôt vous pouvez le faire, au plus ça aura un impact sur les intérêts composés. Et en guise de mot de la fin de cette longue émission, mais qui aujourd'hui nous aura permis de traiter un sujet qui est beaucoup plus important et vaste que d'avoir le nez dans le guidon crypto-centré du quotidien, ça vous permet également de voir au travers de toute cette analyse, quelque part, que les baisses ont leur importance. Et c'est ce qui est le plus important à retenir aujourd'hui, c'est est-ce que quand on va chercher un peu trop de risques, au risque justement d'avoir cette volatilité négative qui va impacter très fortement le portefeuille au long terme, il vaut pas mieux de temps en temps avoir un petit peu moins bien, un peu moins de volatilité, mais un risque rendement qui sera des mieux ajusté avec ce ratio de Sharpe qui repassera au-dessus de 1. Voilà, c'est là toute la question et c'est là où vous allez devoir de votre côté faire des simulations sur ce site excellent. portfolio visualizer et également, pourquoi pas, vous faire aider de l'IA ou dans le meilleur des cas, puisqu'on est encore dans un monde avec des humains, un conseiller en gestion de patrimoine ou tout simplement votre banquier qui s'intéresserait un petit peu plus à votre situation. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette émission vous aura plu, bien que, je suppose, elle est un peu plus indigeste que tout ce qu'on a traité jusqu'ici. Je vous retrouve avec grand plaisir demain, maximum mercredi, pour débrief le début de semaine. Continuez d'être prudent et j'espère que toutes ces informations vous auront permis d'y voir un peu plus clair quant à vos projections patrimoniales pour du long terme. Très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.